Seconde table ronde. Relocaliser, comment? En combien de temps? Faut-il l'argent de l'État?
Relocaliser, comment? En combien de temps? Faut-il l'argent de l'État? On continue ce débat sous l'égide d'éthique et nous sommes maintenant avec Karine Guillot, directrice du think tank relocalisation.fr. Karine Guillot, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être en plateau, Jean-Paul Ancel, PDG de DMS Group.
Bonjour.
Et puis on accueille Pierre Schmitt, PDG de Velcorex. Pierre Schmitt, merci. Bonjour. D'être notre invité. Alors, c'est vrai que la pandémie qu'on a connue avait donné un coup d'arrêt à la mondialisation. Il y a eu des ruptures d'approvisionnement en provenance de Chine, des pénuries de matériel médical, de masques pour lesquels la France et l'Europe dépendent des importations. Ça a mis en lumière certaines fragilités liées au partage international de la production. Et vous nous dites, puisque vous faites paraître votre frère Philippe Ancel, Christian Saint-Étienne, ont sorti un livre, La France déclin ou renaissance, un livre dont vous faites la promotion, qui nous montre où le bât blesse. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce qu'il faut changer en France pour y arriver dans l'industrie?
À la limite, il faudrait tout changer. Vous savez, Bernard Shaw disait sous forme de boutade, ceux qui savent faire produisent, ceux qui ne savent pas faire enseignent. Et je dirais, en France, ceux qui ne savent pas faire dirigent. Et c'est le grand problème de la France. Vous savez, je ne suis ni un adepte du catastrophisme, ni du complotisme, mais je crois que nous sommes dans une situation assez dramatique qui génère un appauvrissement global de la France que l'on camoufle par la dette d'une certaine manière. Vous savez, en France, on parle toujours de, comme dans tous les pays, de macroéconomie et de microéconomie. On pourrait parler de microéconomie, qui est donc une économie de type de camouflage de la réalité. Parce qu'on met en avant les chiffres les plus inintéressants, alors qu'on ne met pas en avant les chiffres les plus importants et qui montrent une situation catastrophique. Je pense qu'on est, d'une certaine manière, je ferai une comparaison avec la Deuxième Guerre mondiale, où la France a été envahie en quelques jours par l'Allemagne. Alors, ça a pris quelques temps parce qu'on est dans l'économie, mais on est dans la même situation que pendant la guerre 39-45. Et il va falloir réagir. Et nous n'avons pas de De Gaulle. Nous n'avons qu'un Macron.
Alors, Karine Guillot, vous dites que la France a les moyens de le relocaliser en étant méthodique et ambitieuse. On essaye d'aborder les solutions, les méthodes dans cette table ronde. Vous pouvez nous détailler ces solutions?
Oui, alors avant de détailler les solutions, je voudrais quand même rebondir sur ce que vient de dire monsieur. On a beaucoup parlé dans la première partie... effectivement, de notre problème de désindustrialisation, mais il faudrait quand même que les Français aient conscience, avec des chiffres clés, des enjeux. Aujourd'hui, pour la première fois en 2021, l'année dernière, la balance commerciale a dépassé le déficit de 100 milliards d'euros. Donc il faut bien comprendre que c'est la première fois que ça nous arrive et que ce déclin aujourd'hui nous paraît très difficilement redressable. 100 milliards d'euros, pourquoi? Alors, contrairement au chiffre de 80 milliards, parce qu'en fait, on subit les coûts de transport. Et cette dépendance que l'on s'est créée ne concerne pas que les produits dits stratégiques, elle concerne l'ensemble des biens de consommation. Donc, que le gouvernement s'attelle à la tâche très louable de relocaliser les produits dits stratégiques, fort bien, mais en réalité, ce sont tous les biens de consommation du quotidien qui sont concernés. Et j'aimerais recontextualiser les choses, parce qu'on parle de la France comme si la France était isolée ou ne vivait qu'au milieu de l'Europe. La réalité, c'est que la Chine, depuis 2017, a annoncé de façon très claire dans un plan qui s'appelle Chine 2025, qui est un plan qui va jusqu'à 2049, qu'elle cesse d'être l'usine du monde. Donc, quand on dit aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens de relocaliser, est-ce qu'on a les moyens de réindustrialiser, je dirais, c'est une fausse question. La vraie question, c'est comment on le fait et comment on le fait maintenant, puisque la Chine va cesser de nous fournir. Or, la Chine est notre premier fournisseur. Donc ça, c'est vraiment une question extrêmement importante qui est occultée. C'est l'éléphant qui est dans la pièce et qui est complètement occultée du débat médiatique.
Est-ce que Monsieur Schmitt, on se rend compte que il est possible de recréer de l'industrie en France, même dans des secteurs qui ont été extrêmement massacrés, hein. Vous êtes dans le textile, vous êtes le PDG de Velcorex et vous avez réussi contre vents et marées à installer des sites de production et ça marche. Vous pouvez nous raconter ?
Oui, ça marche et ça marche parce que d'abord, il faut y croire. Je pense que le premier problème, c'est qu'on n'y croit pas. On retombe dans un certain fatalisme en disant oui, ben c'est normal, on va tout délocaliser, les Chinois vont travailler pour notre bien-être à Tétenham et tout ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je pense que ça, même à mon avis, juste, je vais faire une remarque par rapport à Karine. Je pense que personne aujourd'hui a pu faire le bilan de tout ce qui a été délocalisé depuis 30 ans. On parle du Doliprane, mais c'est juste un petit zoom sur un petit détail.
C'est un épiphénomène.
Et comment, voilà. Alors qu'en fait, il y a des filières complètes qui ont été délocalisées. Et je crois qu'il y a peu de gens, très peu de ministres et très peu de députés, et très peu de préfets qui se rendent compte de tout ce qui a été délocalisé. À un moment donné, pour prendre la mesure de cette gabegie, il faut faire la liste de tout ce qui a été délocalisé.
Nous l'avons faite. Tout est accessible sur nos sites, contrairement à la direction des douanes qui cache de façon bien secrète l'ensemble des données qui les rend absolument intraitables. Nous l'avons mise à jour et c'est accessible, téléchargeable sur notre site, relocalisation.fr.
J'ai appris quelque chose, c'est très bien. Donc, effectivement, l'industrie textile, on dit qu'elle a été condamnée. Elle a été sacrifiée sur l'autel de la mondialisation avec le concours de beaucoup de personnes. Hein, donc, on ne va pas les nommer ici, la liste est trop longue. Mais globalement, c'est une question de fatalisme. Lorsque nous, on a repris donc, une entreprise qui remonte à 1828, Velcorex, qui est mondialement connue, ben, à l'époque, je n'étais pas obligé de me battre contre quelqu'un d'autre. Personne n'en voulait. Et tout le monde disait que c'était de la folie. Et en fait, je pense que la folie, c'est de ne rien faire. Là, c'est une attitude normale de défendre son industrie. Comment peut-on sacrifier des siècles de savoir-faire tout simplement parce qu'à un moment donné, il y a un ministre ou je ne sais pas qui a décrété qu'il faut tout délocaliser. Vous connaissez très bien Pascal Lamy. Hein, qui a quand même cautionné tout ça avec, c'est pas le seul.
Pour faire marche arrière aujourd'hui.
Pour faire marche arrière, exactement, je suis entièrement d'accord. Mais à l'époque, on a décrété que l'industrie textile, on l'a comparé l'industrie textile à une usine de t-shirts.
Bien sûr.
Il y a des écrits qui sont là pour le témoigner. Est-ce qu'on se rend compte que l'industrie textile a été le moteur de la révolution industrielle ? Pendant des siècles, le 19e siècle a été un siècle absolument incroyable. Je prends l'exemple de Mulhouse. Et faut-il rappeler que Mulhouse a été plus riche que Bâle ? Vous voyez Bâle aujourd'hui ? Vous voyez Mulhouse ? Mulhouse a été plus riche ? C'était la ville, on appelait Mulhouse le Manchester français, la ville sans usine, sans cheminée, pardon. Et donc, pourquoi ? Parce qu'il y avait un pouvoir industriel, il y avait un pouvoir bancaire et il y avait un pouvoir politique. Et les trois pouvoirs travaillaient étroitement ensemble. On parlait industrie, je dirais, au petit déjeuner, à la messe, le dimanche, au repas de famille, tout le temps. Donc, de facto, il y avait une vraie culture industrielle. Aujourd'hui, le pouvoir politique, je n'ai pas peine que je l'explique, il est sur une autre planète. Le pouvoir bancaire, il est sur une autre galaxie. Et les industriels se retrouvent tout seuls. On ne peut pas créer une culture industrielle. Quand j'ai écouté le débat avant, qui était effectivement très intéressant, j'avais envie d'intervenir, je vais dire, mais la première des choses à réhabiliter, c'est une culture industrielle. Les Allemands l'ont, à côté de chez nous, en Alsace, en Suisse, il y a une culture industrielle, en Allemagne, il y a une culture industrielle. Pourquoi il n'y en a pas chez nous ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et surtout en Alsace, on était toujours mieux que la France. On est peut-être un peu arrogant, mais en Alsace, il y avait une culture industrielle parce qu'on avait une culture germanique. Entre-temps, elle a été balayée. Je dirais aujourd'hui, on est presque aussi mauvais que le reste de la France. Et ce n'est pas ça qui nous réjouit. On a envie d'être aussi bon que les Suisses et les Allemands.
Alors, Jean-Paul Ancel, vous-même, vous êtes un dirigeant d'entreprise.
Ça m'amuse ce que dit Pierre Schmitt parce que j'ai été confronté à la même situation. Vous savez, j'ai 72 ans, donc je pourrais être à la retraite. Et j'aurais dû aller à la retraite parce que je me souviens, quand j'étais appelé pour redresser DMS, qui était un acteur des tables de radiologie et de l'imagerie médicale, J'ai rencontré deux personnes que je ne nommerai pas par leur nom, la directrice de la BPI
nationale. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro pour qu'on vous entende?
La directrice
s'il vous plaît.
De la BPI nationale et puis la responsable du Crédit Agricole du Languedoc-Roussillon, c'est une institution majeure dans la région, qui m'ont dit que je n'avais aucune chance de redresser la société qui faisait 15,6 millions d'euros de chiffre d'affaires et 6,6 millions de pertes. On m'a dit vraiment, c'est sans espoir votre cas. Et nous avions même des machines qui ne marchaient pas ou mal, à tel point que nous étions même blacklistés avant mon arrivée au Kazakhstan, c'est vous dire. Bon, et désormais, nous sommes, paraît-il, la société qui fabriquons la table de radiologie la plus exceptionnelle du marché, devant celle de Siemens, qui était le gold standard auparavant. Et nous avons été approchés, je peux en parler très confidentiellement, il y a 4 ans par General Electric, qui est le leader mondial des tables de radiologie, grâce à la France, puisque il y a eu quelques décennies, il y a eu un échange extraordinaire sur un plan stratégique qui est une aberration, puisque Thomson CSF, l'ex-Thales, a vendu l'activité CGR, qui était le leader mondial des tables de radiologie et qui était mal gérée, contre l'activité téléviseur et radio de GE, qui valait rien du tout au bout de 2 ans. Voilà. Et ça a permis à General Electric de devenir le leader mondial de l'imagerie médicale et de la medtech. Nous avons été approchés il y a 4 ans, à ma grande surprise, par le directeur du M&A de GE, qui nous a proposé de fabriquer toutes leurs tables à l'échelle mondiale. Ce qui nous aurait permis de devenir une ETI en l'espace de 2 ans. Bon, finalement, après des négociations très longues, nous n'avons pas abouti parce que General Electric a des problèmes insurmontables en interne. Mais c'est vous dire que l'on peut changer une société. Alors, en fait, nous sommes passés par 2 phases. La phase classique où nous sommes battus sur les prix et nous sommes rendus compte que nous n'allions nulle part sous la pression des banques, parce qu'évidemment, j'ai commencé par Bercy. Alors, je pouvais vous raconter ma visite dans l'Absurdistan. Bercy, j'ai eu l'occasion d'avoir toutes les banques autour de la table. Et alors que je ne devais rien, j'ai expliqué pourquoi j'étais là. On m'a dit, mais parce que les banques ne veulent pas continuer à travailler avec vous. Ah, j'ai dit, mais dans ces cas-là, l'industrie française doit s'arrêter parce que 85% des financements industriels sont faits par les banques en France. Bon, alors on m'a dit qu'il fallait que je me taise et que je me concentre sur le problème. Alors après, ils ont fait faire une étude par Deloitte, l'équipe restructuration, pour essayer de comprendre s'ils pouvaient, nous avions encore une chance. Et Deloitte a dit oui, ah ben, finalement, la société est dans une situation intéressante. Et moyennant quoi, donc, la conclusion était de dire, il faut augmenter le chiffre d'affaires, parce qu'évidemment, c'était essentiel. Et ça veut dire un besoin de cash flow supplémentaire. Et à ce moment-là, les banques ont dit, eh ben, on va supprimer les lignes, voilà. C'est parfaitement logique. Moi, je croyais qu'à Bercy, il y avait des gens intelligents. J'en viens parce que je suis un ancien fonctionnaire du ministère des Finances et du ministère de la Recherche et de l'Industrie. Et j'avoue que j'étais atterré de retrouver les mêmes que quand j'étais parti. Ouais. Vous savez, je dis toujours, sous forme de boutade, on ferait passer des tests aux gens de Bercy sur la comptabilité nationale. Ils auraient tous 20 sur 20 puisqu'ils ont l'habitude de truquer les budgets nationaux. Bon, année après année. On leur ferait passer un examen sur comment créer de la valeur. Ils auraient tous une note éliminatoire. C'est terrifiant et c'est dramatique.
Vous savez, moi je crois qu'en fait, je pense qu'il y a des gens intelligents partout. Je pense que c'est l'écosystème. Quand vous êtes à Bercy, moi j'ai eu l'occasion d'être à Bercy à 2-3 fois, mais quand vous voyez ce blockhouse, c'est un blocus, c'est une forteresse, ces gens-là et l'administration en général devraient retourner, comme le préfet, le sous-préfet des champs au XIXe siècle, devraient retourner dans les usines. Il faut que l'administration se rende compte de la réalité des entreprises et les préfets, les sous-préfets, les députés devraient passer une journée par semaine pour qu'il y ait une culture industrielle dans ce pays. On débat des lois et des normes. Il y a plein de gens dans l'administration qui sont tout à fait respectables, mais qui sont déconnectés par rapport à la réalité industrielle. industriels. Pourquoi les préfets, les sous-préfets ne sont pas présents une journée par semaine pour connaître vraiment l'importance du maillage industriel? Il y a cette culture industrielle, je répète toujours la même chose, mais elle existe en Allemagne. La culture industrielle, elle est même chez les citoyens. Les citoyens allemands, les citoyens suisses savent que leur richesse, que leur bien-être, leur sécurité sociale, leur retraite dépend de la richesse des entreprises. Nous, on nous fait croire que ça dépend de l'État. C'est totalement faux. C'est ça le problème. Il y a un problème culturel et ça, il faut le régler à la base, dans les écoles, dans les universités et réhabiliter cette culture industrielle.
Karine Guillaume, vous voulez rebondir.
Alors, je voulais rebondir avant d'aller sur les solutions. Je voudrais dire que si on en est là, c'est qu'il y a quand même deux causes principales et si on ne s'attaque pas à ces causes, on n'arrivera pas à régler le problème.
Absolument.
La première, c'est qu'on a fait croire depuis 40 ans que les activités dites de fabrication étaient délocalisables sans conséquence pour les entreprises. Donc c'est le fameux modèle des entreprises sans usine. Or, cela, c'est une erreur, mais fondamentale, puisque dans les activités de fabrication, c'est en réalité là qu'on va aller puiser l'innovation, qu'on va interagir avec tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement et qu'on va créer de la valeur. Donc dire... on délocalise, ça n'a pas de conséquences, c'est une erreur fondamentale et nous on se bat vraiment pour changer cet état d'esprit. Moi-même ayant été à l'ESSEC, sur les bancs de l'ESSEC, c'est ce qu'on nous apprenait. La courbe du sourire, délocalisons, ça n'a pas de conséquences et positionnons-nous sur les activités dites à forte valeur ajoutée comme la conception ou le marketing. Et d'ailleurs c'est là où tous les étudiants s'orientent. Donc en réalité, c'est terrible de former des générations d'ingénieurs centrales, les centraliens, je pense aux centraliens même, polytechniciens, qui ne vont plus dans les activités de production pour aller dans la banque, la finance, le conseil. Donc ça, c'est la première solution, première cause. Deuxième cause, c'est qu'en France, on pousse sans arrêt les nouvelles technologies. Alors, fort bien, et il faut le faire. Mais on le fait au détriment des industries de consommation. Et ça, c'est un problème, parce que je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on s'est créé une dépendance, véritablement, sur les pulls. Donc, les pulls qu'on porte tous les jours. Le marché du pull en importation, c'est 1 milliard d'euros chaque année, en valeur d'importation. Si, de notre côté, on pousse les start-up à développer des technologies sur la coloration naturelle du textile... C'est un marché exceptionnel, énorme. Mais qu'à côté, on n'a pas d'industrie textile pour appliquer ces nouvelles technologies, mais qu'est-ce qui va se passer? La start-up qui a développé ça, elle ne va pas rester en France. Elle va les vendre aux États-Unis ou aux Allemands, qui, eux, ont encore leur industrie textile, ou aux Italiens. Donc, si vous voulez, il y a ça, ces deux poncifs, il faut absolument les remettre en cause. Et ça nous permettra de réindustrialiser.
C'est un très bon exemple. Je me suis dit, c'est un très bon exemple. Je suis ravi de l'entendre de votre bouche. Parce que pour les pulls de qualité, il faut de la laine. D'accord ? De la laine française, il y a 15 000 tonnes de laine en France. Il n'y a même pas une seule station industrielle de lavage de la laine. La plupart de la laine part en Belgique pour être lavée. Le transport coûte plus cher que le coût du lavage. Quand on parle de filière, c'est un très bon exemple. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est le principe de base d'une filière. Et vous avez parlé d'innovation. Il y avait un article dans Les Échos il y a quelques années qui disait on ne peut pas innover loin des usines et loin des hommes. On nous a fait gober vraiment des naïvetés en croyant que nous allons maîtriser l'innovation avec des emails qu'on va envoyer à un sous-traitant en Chine et tout ça. C'est vraiment faux. L'innovation se ferait, et je le vis tous les jours avec le lin, avec les composites, elle se fait près des hommes et près des machines. Il faut cet écosystème reconstituer des vraies filières, des vrais écosystèmes qui nous permettent de maîtriser tout ce que vous venez de dire.
Alors, on va revenir sur le lin, la laine. On n'a pas terminé de développer, de tirer effectivement ce filon. Mais Patrick Martin nous a rejoint. Il est président du groupe Martin Bellesseux d'Expansion, président délégué du MEDEF. Patrick Martin, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Et en filigrane des deux différentes tables rondes, il y a cette notion de l'éducation qui revient, des déficiences dans le domaine et qui font que les entreprises n'ont pas nécessairement accès aux talents qu'elles voudraient. Vous-même, vous m'avez parlé en préparant cette émission de cette corrélation entre le niveau d'éducation et le niveau d'industrialisation. Est-ce que vous voulez aborder le sujet ?
Oui, pardon d'être en retard, mais il y a une actualité qui est assez intense en ce moment, qui nous concerne tous. Bon, je m'exprime moi en tant que, bien sûr, représentant du BNF, mais en tant qu'industriel. Donc tout ce dont on parle, ça me parle. Je vis de l'industrie, je fais vivre des industriels, je suis moi-même en partie, en tout cas, industriel. Il y a une forme de capitulation collective. On peut accabler les politiques, mais enfin, je crois que ça a été malheureusement...
On l'a fait en début d'émission, vous ouais, l'avez fait.
Oui, mais ça n'est pas, ça n'est pas de leur seule fête. Ça n'est pas de leur seule fête. Effectivement, ça se traduit y compris dans l'orientation des jeunes, ça se traduit y compris dans le contenu des enseignements, et puis je dirais au-delà de ça, dans l'imaginaire collectif autour de l'industrie. Il y a eu des discours extrêmement pernicieux, malencontreux, et qui ont fait que dans l'imaginaire collectif de nous tous, hein, à nouveau, c'est pas que les politiques, l'industrie a encore une mauvaise image. Alors, l'actualité, malheureusement, en un sens, mais toute chose malheureuse, l'actualité fait qu'il y a une prise de conscience collective, mais il y a des chantiers de fond à engager, et singulièrement quand on parle d'enseignement, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. La fiscalité, vous pouvez changer une fiscalité d'un claquement de doigts, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on y arrive quand même. L'enseignement, c'est différent, donc il va falloir qu'on rétablisse beaucoup plus les enseignements scientifiques en particulier, y compris la dernière réforme du bac. On a alerté sur ce sujet-là. Monsieur Blanquer, à bon droit, s'en est un peu ému, mais les faits sont là. Il y a un détournement de beaucoup de jeunes, et singulièrement de jeunes filles, de l'enseignement scientifique. Il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'industrie plus globalement. S'il n'y a pas d'enseignement scientifique, moi-même qui ne suis pas scientifique, bien qu'ayant fréquenté l'ESSEC également, je suis parfaitement conscient que si on ne remédie pas à ça, on fera des sauts de cabri, on lancera des incantations, mais on n'y arrivera pas. Donc il y a plusieurs années de retard à rattraper. Ça ne nous empêche pas d'agir sur d'autres fronts dès à présent.
Monsieur Ancel, dans cet ouvrage « La France, déclin ou renaissance », effectivement, vous donnez quelques recommandations. Vous pouvez en serrer quelques-unes pour que ça s'améliore.
Je pense qu'il n'y a pas une malédiction. Simplement, comme tout problème, si on n'analyse pas les raisons du problème, on ne peut pas trouver les solutions. Or, la raison du problème, à mon avis, est essentiellement liée aux grandes écoles et à la mise sur le pouvoir des énarques, bon, qui n'apportent rien et qui sont devenus de facto... Alors au départ, certainement l'intention était très bonne, simplement c'est devenu désormais une secte qui s'intéresse qu'au pouvoir pour des raisons personnelles. Ouais.
Alors, l'ENA a été supprimée, peut-être c'est juste un changement de nom, mais enfin il y a une évolution.
Oui, bon, faut pas se rêver. Bon, c'est dû en même temps, c'est de la politique de Macron, c'est-à-dire de la politique de trompe-l'œil. Voilà. Bon, alors on progresse lentement et sûrement, sans aucun doute. Il y a des améliorations marginales. Simplement, il faut se rendre compte qu'on n'adresse pas les vrais problèmes. Et je vois, il y a une explication intéressante liée il y a quelques années à la vision du gouvernement qui avait dit « Ah ben, c'est pas bien, on a moins d'ETI en France qu'en Allemagne, ce qui est normal, mais aussi en Angleterre, en Italie, il faudrait avoir plus d'ETI. » Et donc, il y a une campagne qui a été lancée. Évidemment, tout le monde s'étude sur le résultat parce que, de toute façon, rien n'a changé. Bon. Alors maintenant, on nous parle de licornes. Les licornes, c'est très bien. Ça crée quelques milliers d'emplois. C'est assez facile pour le gouvernement de contrôler les développements de nombre de licornes puisqu'il suffit de faire appel à BPI qui finance à peu près 50% des licornes. Et ça permet de la communication. Bon. Le problème... pour moi, vient essentiellement de l'absence de l'enseignement de l'économie. Car ça permet de raconter aux Français à peu près tout ce qu'ils veulent entendre. Et on le voit lors de la campagne présidentielle. Si on enseignait l'économie, parce que maintenant on parle du problème de l'enseignement des mathématiques, mais l'enseignement de l'économie est bien plus important parce que ça leur permet de raconter tout et n'importe quoi et de faire gober aux électeurs à peu près n'importe quoi. Bon. Et on le voit lors de cette campagne présidentielle. Bon. Et si on enseignait l'économie, et si on disait l'objectif plutôt que le principe de précaution, c'est de fixer une participation de l'industrie par rapport au PIB national de 25%, et ben ce serait certainement plus efficace et les Français pourraient juger de l'efficacité de leur gouvernement, plutôt que de partir dans toutes les explications qui n'ont aucune efficacité, ce qu'on le voit à l'heure actuelle.
Alors, vous voulez rebondir, M. Martin ?
C'est toujours 30 ans de trouver des boucs émissaires. Alors, ça peut être les énarques, ça peut être les politiques, c'est souvent les mêmes, d'ailleurs. Mais je crois qu'on se doit de faire un examen de conscience collectif et de s'imposer de gérer nos contradictions. Je m'explique. On a tous pris le parti de la consommation contre la production. Tous. Ça s'est traduit.
Pour se faire élire, essentiellement.
Non, je parle des consommateurs. Vous êtes un consommateur.
Je suis
un consommateur. Mais les mêmes qui à corps et à cri demandent la réindustrialisation, le jour venu, vous disent oui, mais c'est quand même plus cher, il n'est pas dit que je passerai à l'acte. Il faut qu'on fasse notre examen de conscience et qu'on soit cohérent. Ça s'est traduit dans les législations, les réglementations et les jurisprudences en matière de concurrence. On a empêché la constitution de champions français, de champions européens, au motif qu'il fallait protéger les consommateurs.
On a laissé
le champ libre à des grands acteurs asiatiques ou américains. Il faut avoir ça en tête. Donc, ensuite, il faut qu'on sache gérer nos contradictions au même moment où on dit il faut des usines, mais pas à côté de chez moi. De la même manière qu'on dit il faut des logements, mais pas à côté de chez moi. Donc, c'est un peu réducteur. Je partage, mais c'est un peu réducteur de dire que c'est la faute à. C'est notre faute collective. Et donc, notre responsabilité, en tout cas, nous, au MEDEF, on considère que c'est la nôtre, c'est de poser les enjeux très clairement sur la table et que chacun, en âme et conscience, de manière rationnelle, fasse des choix. Il en va de même pour la défense de l'environnement. On va pas demain relancer les productions agricoles françaises si on veut être dans le même temps les champions du monde de la défense de l'environnement. Or, il faut défendre l'environnement. Mais voilà, le débat pour l'instant est assez biaisé, il est assez irrationnel, et donc il faut que chacun prenne ses responsabilités, au premier chef, les consommateurs. Les consommateurs qui veulent du bio, regardez, les ventes de bio ont augmenté significativement jusqu'à l'année dernière, elles ont baissé l'année dernière. Il y a un facteur prix à la fin.
Je vais me permettre de faire un commentaire parce que on parlait dans le passé de propagande. Maintenant, ça s'appelle les fake news. La propagande est très efficace. Ça a permis à Hitler de prendre le pouvoir et d'envahir la France. Bon, et il suffit peut-être de se concentrer sur l'essentiel, à savoir expliquer aux Français quel est l'objectif à moyen et long terme et qui sont gagnants. Évidemment, si on leur raconte n'importe quoi, ils vont croire à tout ce qu'on leur dit et de voter dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Bon, voilà. C'est le problème français.
Mais la France, en fait, pour être positif, elle est capable du meilleur et du pire. Pendant les 30 Glorieuses, elle était capable du meilleur. On avait une vision industrielle, on avait le temps long, c'est extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, on veut faire de l'argent tout de suite, construire une usine, gagner de l'argent et tout ça. C'est pas possible. À un moment donné, il faut accepter ce temps long. Et donc, cette culture industrielle des 30 Glorieuses, finalement, qui nous l'a copiée ? C'est les Chinois. Les Chinois ont reproduit exactement ce modèle. Les Chinois ont le temps. On le sait tous, ils se projettent, alors que nous, on n'a plus la capacité. Les 30 Glorieuses ont été suivies des 30 Piteuses. C'est comme ça que je les appelle. Oui. Pendant 30 ans, on a construit quelque chose de superbe, et après, pendant 30 ans, on l'a démantelé. Et on a fait croire aux Français que c'était l'avenir. C'est ça qui est absolument grave. On a infantilisé les Français, alors qu'en fait, il faut réhabiliter une vraie culture industrielle, une vraie vision industrielle, en disant tout, on peut... Je prends l'exemple du lin. C'est vrai que maintenant, tout le monde, depuis 10 ans qu'on galère et qu'on essaie de propager la bonne parole, la France est le premier producteur mondial de lin. Elle produit les 3/4 du lin. Le lin, au-delà de l'habillement et de l'ameublement, il peut remplacer presque tous les dérivés du pétrole. Il peut remplacer le PU, le PVC, les fibres de verre, qui sont aussi une catastrophe écologique. Donc, on a tout. On a la matière première, on a une mine d'or. Et qu'est-ce qu'on a fait dans les années 2000 ? On a fermé toutes les filatures de lin. Ça veut dire que le premier stade de valorisation, on était totalement inconscient. Comment un pays qui est leader dans ce domaine a pu fermer toutes les filatures de lin. Et aujourd'hui, le pire dans cette opération, c'est qu'on a encore une société qui s'appelle Schlumberger, qui est le leader mondial des machines de filature. Donc non seulement on a la matière première, et en plus de ça, on a le leader mondial des machines de filature, et on ferme les filatures. Je n'ai jamais vu une gabegie aussi importante. Et c'est ça qui m'a révolté, et c'est à cause de ça que je pense qu'il faut penser le temps long, il faut avoir une vision industrielle. Mais le problème après, qu'une fois que vous avez décrété, par exemple, qu'il faut investir dans cette filière, qui va presser sur le bouton
aujourd'hui la politique financière française.
Ben oui, mais après vous avez une part des vous allez voir le ministère de l'Agriculture, vous allez voir le ministère de l'Écologie, vous allez voir le ministère de l'Industrie, vous allez voir les patrons des régions. Vous voyez, personne, tout le monde dit ah oui, c'est une superbe idée, il faut y aller. Mais j'ai écrit un courrier au commissaire au plan pour expliquer tout ça. Mais à un moment donné, il faut une implication de l'État, il faut une coordination, il faut une volonté. Mais aujourd'hui, les centres de décision sont répartis dans toute l'administration française, voilà. Tout le monde est responsable et personne n'est responsable. Et c'est ça. Aujourd'hui, il n'y a aucune discussion. Les gens ont compris qu'on avait une matière première, le chanvre, demain l'ortie, et on est totalement indépendant, c'est totalement écologique. On peut faire une véritable révolution là-dessus. On a tous les atouts. On est beaucoup mieux que les pays germaniques. Nous, on est bien placés en France, hein, puisque les pays germaniques n'ont pas cette culture. Donc, on a tous les atouts et on peut vraiment créer un écosystème, c'est ce qu'on est en train de faire à Mulhouse, faire un pôle d'excellence pour greffer toutes les compétences sur le même secteur.
Effectivement, juste, je précise qu'il peut faire plein de choses, parce qu'il peut même faire des bateaux. Hein. Je crois que vous allez faire la route du Rhum avec du lin, vous pouvez...
Oui, tout à fait, il y a Roland...
Jourdain.
Roland Jourdain, exactement, on a équipé un bateau, pas évidemment l'ensemble des acteurs actifs dans cette filière, mais notre lin a pu participer donc à ce bateau qui utilise 61% du lin, et c'est une grande satisfaction. Mais de l'aéronautique, on a parlé de la mobilité. Je veux dire, tout le monde cherche aujourd'hui d'alléger les poids des structures. Tout le monde cherche aujourd'hui des produits recyclables, et tout le monde cherche aussi des produits qui absorbent les vibrations. C'est extrêmement important. Le lin, c'est pas comme une fibre de verre, elle absorbe les vibrations. Donc,
il y a un potentiel. Je vous donne la parole.
Je voulais rebondir sur le sujet évoqué par M. Martin, sur le fait qu'effectivement, on avait mis au centre du débat social la notion de consommateur. Et ça, c'est terrible. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, il y a une baisse du niveau de vie.
Tout à fait.
Donc, on ne peut pas dire aux Français d'un coup d'un seul, on va augmenter vos prix, déjà que vous subissez les conséquences de notre désindustrialisation qui fait qu'on est obligé de vous ponctionner de plus en plus pour financer notre modèle social. Ceci dit, le fait de sans arrêt se concentrer sur cette notion de consommateur roi, c'est extrêmement, si vous voulez, c'est destructeur pour notre modèle. On ne parle plus de plein emploi. Vous le voyez bien dans le débat, dans les élections aujourd'hui, la notion de plein emploi a complètement été effacée au profit de celle de consommation ou de perte de pouvoir d'achat. Or, que voit-on ? Les Français ne sont pas en réalité dans cette dynamique telle qu'on le pousse sans arrêt. Ils sont prêts à accepter des hausses de prix. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, la qualité de ce qu'on consomme est assez mauvaise. Donc quand vous achetez deux articles au lieu d'un, en réalité, sur le coup, vous avez l'impression que vous faites des économies, mais vu que les articles que vous achetez vont à la poubelle plus rapidement, vous ne faites pas d'économies. Donc cette notion de consommation, de pouvoir d'achat, il faut vraiment la remettre en perspective au regard de la notion d'emploi. Et également, c'est un modèle qu'on s'est créé en disant on ne va plus être un pays industriel où on va avoir des ingénieurs, on va être un pays de services. Or, aujourd'hui, on a 5,5 millions de chômeurs. Il faut quand même revenir sur les vrais chiffres. On a 5,5 millions de chômeurs. On a également des personnes qui vivent dans une très grande précarité. Et je ne suis pas persuadée qu'en allant interroger ces 5,5 millions de chômeurs, ils vont vous dire que leur centre d'intérêt principal, c'est la consommation. Ils vont vous dire que leur centre de préoccupation, c'est l'emploi. Et l'emploi durable, l'emploi pérenne. Donc ça, c'est un vrai sujet quand même qu'il faut remettre au cœur du débat politique. C'est la notion de plein emploi. Est-ce qu'on veut créer un modèle social à même de redistribuer et de créer du plein emploi, ou est-ce qu'on veut une consommation qui vient de Chine, dont on sait qu'elle va s'arrêter, puisque la Chine nous a dit qu'ils allaient arrêter d'être notre usine ?
Patrick Martin, on demande aux entreprises d'investir en France, de relocaliser. On leur demande également de viser la neutralité à bas carbone. Dans un monde idéal, on a tous envie de faire converger les deux défis, mais comment peuvent-elles résoudre cette équation ?
C'est la quadrature du cercle.
Parlez-moi. <Plus. rire>
Pour que chacun ait bien les idées en tête, il y a un consensus dorénavant chez les économistes pour considérer qu'en France, mais ça sera vrai en Allemagne de la même manière, le coût de la transition énergétique, l'objectif que l'on partage hein, de neutralité carbone en 2055, ça va coûter de l'ordre de 2,5 à 3% du PIB par an d'ici là. C'est-à-dire de l'ordre de 90 milliards d'euros par an. Qui va payer ? Qui va payer, ça va être les consommateurs, ça va être les entreprises et ça va être un peu les contribuables, donc disons l'État. Mais là aussi, le débat n'est pas posé de manière objective. Il ne s'agit absolument pas d'être dans le déni ou dans l'esquive ou dans la résistance passive. Il faut aller vers cette neutralité carbone. Mais au même moment où donc les entreprises, pour ce qui les concerne, vont devoir investir significativement, il ne faut pas réduire leur marge de manœuvre. Et donc ça renvoie à des débats qui peuvent passer pour très classiques, mais qui sont au contraire d'une actualité brûlante, hein, c'est-à-dire les charges qui pèsent sur les entreprises, les impôts de production hein, qu'on a tous en tête et où on a un petit peu avancé, mais on est encore loin du compte, les charges sociales, en tout cas au-delà d'un certain niveau de salaire, mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser la protection sociale. En toute chose, il faut essayer d'être cohérent et de gérer ses propres contradictions. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que les deux enjeux principaux, en dehors de ceux que j'ai évoqués, de formation, de fiscalité, de charges sociales, c'est effectivement la réglementation, ça a été évoqué. Il y a un truc qui est assez caricatural. Hein. Il y a une loi ASAP qui est passée, qui est extraordinaire. J'ai explicité. Il y a eu, en son temps, un dispositif dérogatoire pour que Toyota s'installe à Valenciennes. Il y a des sites industriels clés en main qui sont dorénavant mis à disposition. Tout ça est formidable. Mais c'est la démonstration par l'absurde, puisqu'il faut créer des dérogations, que le fond de la législation et de la réglementation française sont pénalisants, sont bloquants avec tous les délais, toutes les complexités que l'on connaît. Donc il faut, je ne vais pas dire un Big Bang, mais une remise à plat et avec une optique très opérationnelle, avec l'impérieuse nécessité d'un pilotage en une seule main, parce que sinon chaque administration, de bonne foi, chaque collectivité territoriale ou nationale, de bonne foi, veut marquer son empreinte, on perd un temps fou, ça coûte un argent fou et ça disqualifie la France. Et après, il y a le sujet des financements. Je ne dirais pas que c'est le propre des banques françaises qui, sincèrement, ne sont pas plus mauvaises, elles sont peut-être pas meilleures que les autres. Non mais pardon, je finis juste là-dessus. Non mais
le financement, je connais bien le problème parce que je suis un ancien banquier. Hein. Alors je peux vous assurer que on me demande pourquoi je suis coté en bourse. Ah bah parce que je peux pas trouver de financement et on prend des banques. C'est aussi simple que ça.
Oui, mais pour qui travaillent les banques ? Pour qui travaillent les fonds d'investissement ? Pour les déposants et pour les souscripteurs. Là aussi, c'est pas in abstracto, c'est pas un banquier un beau matin qui a décidé que c'est parce qu'il a des exigences de sa part de ses actionnaires ou de ses souscripteurs. Le vrai sujet qu'on a, c'est que l'industrie nécessite des investissements massifs, a fortiori dans la perspective de la transition environnementale, et qu'en regard, on a actuellement, quelle qu'en soit l'origine, des sources de financement de court terme, court au mieux moyen terme. Or, l'investissement dans le digital à une petite échelle est à un horizon relativement court. Dans l'industrie, c'est des horizons longs. Et donc, il faut absolument qu'on recrée, en mettant en place des dispositifs notamment fiscaux, d'incitation, il faut qu'on recrée une offre de financement long qui a en bonne part disparu, pas singulièrement en France, d'une manière générale dans tous les pays développés, sans quoi personne ne prendra le risque d'investir dans l'industrie, a fortiori s'il faut faire muter ou complètement transformer les offres, les process, les modèles.
Karine Guillot, et si vous prenez quelques exemples de choses qui sont possibles en France, le jean, je trouve ça intéressant.
Je vais répondre à vos questions et je vais juste rebondir avec ce qu'avait dit M. Estrosi tout à l'heure. Il parlait de créer des PEA, effectivement, pour investir dans des projets industriels long terme. Nous, ce qu'on propose, en réalité, il y a un dispositif qui s'appelle le Girardin, qui est à disposition uniquement des DOM-TOM, mais ce qu'on propose, c'est de l'étendre à la métropole. Tout simplement, un dispositif d'incitation fiscale qui marche extrêmement bien et qu'on pourrait tout simplement mettre en œuvre pour la métropole. Voilà, alors, rebondir sur votre question, là, sur ce qui est relocalisable. En réalité, tout est relocalisable. Nous, notre approche, c'est de commencer par là où nous sommes les plus vulnérables, c'est-à-dire les produits qui viennent de pays fournisseurs uniques, vis-à-vis desquels on s'est créé une dépendance délirante qui atteint des 50-80%. Alors, je donne toujours l'exemple du sous-vêtement, parce que j'ai envie de dire, si la Chine ne nous fournit plus, c'est même pas en slip qu'on va être, mais c'est tout nu, puisque nos sous-vêtements viennent à plus de 80% de la Chine. Donc, il faut que les Français le réalisent tout de même. Et qu'est-ce qu'on peut relocaliser ? Mais tout, du moment qu'on met au cœur du process de relocalisation des nouvelles technologies qui vont nous permettre, effectivement, de produire à des coûts compétitifs. Et éventuellement avec une qualité à laquelle les Français se diront « Bon, ok, je paye un peu plus, mais j'ai la qualité. » Alors, comme exemple, je vais vous donner l'exemple du jean. On a tous en tête le jean de la marque 1083, mais qui, effectivement, est vendu dans l'ordre de 100 euros. Donc, c'est un peu des jeans pour une clientèle qui accepte de mettre 100 euros dans un jean. Mais nous avons le groupe Mulier, qui, à travers son écosystème de marque Fashion Cube, a développer une usine dédiée au jean et qui fait sortir son jean à 59 euros. 59 euros, c'est 20% de plus que ce qui est aujourd'hui commercialisé dans ces marques, la marque Jules, par exemple. Donc, on peut, si on le veut, relocaliser. La question, c'est de le vouloir. La question, c'est de ne pas avoir en tête des idées fausses qui nous disent « ça sert à rien, on trouvera toujours d'autres pays pour le faire à notre place ». Voilà. Donc, le jean, c'est relocalisable. Je vais vous donner un autre exemple, c'est le coton-tige. Alors lui, ça n'a pas été relocalisé, mais le coton-tige, nous avons en France le leader mondial du coton-tige. Ils s'appellent eux-mêmes des centimiers parce qu'ils savent que c'est sur le volume qu'ils font leur marge. Vous imaginez le coton-tige, ce n'est pas des coups de folie. Mais ça montre bien qu'en repensant les process et en industrialisant, en robotisant, on y arrive.
Est-ce que du côté
je rappelle qu'on
du
a textile, aussi fait un jean en 100% lin. Donc ce jean, il vient.
Il est magnifique, on le voit. Je ne sais pas
voilà,
si on peut voir l'écran.
On a envie de le porter.
Oui, absolument. Et puis en fait, c'est un jean qui va durer. Vous avez parlé de la durabilité
des produits.
Ce jean est 100% français, avec une matière
française.
Vous
le portez tout de suite, monsieur Martin, c'est ça.
Et je peux vous dire qu'il a consommé 80 litres d'eau. Un jean en coton consomme 8000 litres d'eau. Donc on a un rapport, pas de 1,10, de 1,100. Donc effectivement, à partir du moment où c'est un produit qualitatif, celui-là, évidemment, va coûter un peu plus cher, mais il va durer aussi beaucoup plus longtemps. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, la notion de qualité du produit français est essentielle.
Attention, et aujourd'hui, attention à la mode.
Oui, non, oui, mais jean, en général, vous savez, je pense que...
Mais contactez Fashion Cube, ils vont vous le faire.
Oui, mais quand vous avez aujourd'hui, je reprends, parce que l'exemple du lin est un symbolique. Quand vous avez presque 100% du lin français à l'état de la fibre défibrée, qui part à hauteur de 80% en Chine et 20% dans les pays de l'Est, où est la valeur ajoutée ? Où est la filière ? Donc, est-ce que vous imaginez, à un moment donné, si vous relocalisez toute la filière, ce qu'on est en train de faire en Alsace, avec le constructeur de machines, avec tous nos partenaires, avec la filature, avec le tissage, avec l'ennoblissement, avec les colorants naturels, demain, je dis, avec les universités, parce qu'aujourd'hui, on travaille sur les composites avec une école de Mulhouse qui s'appelle l'Institut des sciences et des matériaux de Mulhouse pour faire les composites, pour faire vraiment les coques des bateaux, des avions et tout ça. Donc, on a franchement un écosystème qui est unique, mais encore faut-il, et là, je suis tout à fait d'accord, que l'État rattrape les 20 ans où il était absent. Je veux dire, on ne va pas devenir... La France peut devenir demain le leader mondial des matériaux biosourcés, mais on ne va pas devenir le leader mondial des matériaux biosourcés parce qu'on a la matière première et toute la filière si on ne rattrape pas une inaction de 20 ans. Je crois que là-dessus, il faut des financements. Nous aussi, on a des problèmes pour se faire financer. On a fait appel à une plateforme, j'en profite quand même pour le dire, de crowdfunding qui s'appelle LITA, L-I-T-A, et qui est en train aujourd'hui de collecter de l'argent pour financer cette filière. On se débrouille avec les moyens du bord. Donc, c'est pas facile de convaincre demain les banquiers qu'on est dans une réhabilitation d'une filière qui va se projeter sur 10 ans. Alors, mais l'objectif est quand même ambitieux. On parle d'emplois. Les emplois, chez nous, on a 150 personnes. Je peux vous assurer que les personnes qui travaillent chez nous travaillent dans des conditions tout à fait correctes. On n'est pas chez Zola, contrairement à l'image qu'on peut avoir chez certaines personnes. On est dans une industrie d'avenir, dans une filière d'avenir. Et c'est extrêmement important aujourd'hui de faire porter l'État de radiologie, on peut les faire en lin demain, on en a déjà parlé. Donc vous pouvez imaginer la révolution, je dirais, industrielle que ça peut être, mais il y a d'autres filières qui ont exactement les mêmes potentiels. C'est à cause de ça que je me bats toujours pour cette notion de filière. Vous pouvez délocaliser parfois une entreprise du jour au lendemain. Mais délocaliser une filière complète où les gens travaillent étroitement ensemble, ça c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus difficile.
Karine Guillot, vous sonnez le tocsin. J'ai vu votre appel au CNR.
Oui, alors le CNR, on en parlait en introduction. Effectivement, notre analyse, c'est que la Société des 30 Glorieuses était détruite par nos 40 années de désindustrialisation et donc elle a mis à mal l'intégralité de notre système de promotion sociale et de solidarité nationale. Donc nous, on appelle, on a un ensemble de groupements pro-réindustrialisation et on se rend compte qu'en réalité, si on veut réindustrialiser le pays et donc reconstruire le modèle social à la française, il faut en réalité dépasser l'écosystème industriel au sens pur pour aller vers d'autres acteurs, donc les enseignants, les syndicats, les élus. Donc on est par ailleurs très content que quelqu'un comme David Lisnard nous ait soutenu, soutienne le président de l'Association des maires de France, soutienne l'idée de relocaliser des filières entières de biens de consommation. Et donc on invite tous les autres acteurs, dont le MEDEF, à se joindre à nous dans ce projet que nous formons de tous nos voeux. Je rappelle que le CNR, le Conseil national de la résistance, a été en 44 capable de surmonter ses dissensions politiques, puisqu'il combinait à la fois des communistes mais également des gaullistes, pour poser les bases du modèle de reconstruction de la France d'après-guerre. Donc il est indispensable aujourd'hui de se dire d'abord qu'un ministère à l'industrie n'est pas capable, la tâche est trop lourde pour lui, de s'attaquer à cette phase de réindustrialisation qui est endémique, qui doit dépasser, l'enseignement. Et donc, on associe évidemment tous les acteurs à nous rejoindre.
Merci Karine Guillot. Merci. Je donne la parole pour conclure cette table ronde à Patrick Martin, président donc délégué du MEDEF et président du groupe Martin Bellesoud Expansion. Il y a quand même une offre de fonds propres pléthorique en ce moment, des taux bas, les horizons courts et des défis importants. Alors, quelles sont les premières urgences pour ce prochain gouvernement? On est à quelques semaines de l'élection présidentielle. Qu'appelez-vous de vos voeux?
Sur le sujet de la réindustrialisation,
oui, c'est notre sujet, exactement.
Non, mais sur les financements, je me suis exprimé. Il y a de l'argent, mais il n'est pas forcément là où il devrait être. Il y a l'épargne des ménages, qu'il faudra flécher beaucoup plus vers l'investissement de long terme. BPI a pris deux initiatives de ce point de vue, mais pour l'instant, on parle de quelques centaines de millions d'euros. Il y a près de 200 milliards d'euros de surépargne qui sont constitués. Alors ne rêvons pas plutôt chez les gens aisés, mais raison de plus. Ensuite, ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur la maturité ou la durabilité des investissements du monde financier, là, il y a probablement des corrections à apporter. Mais plus globalement, je pense qu'il y a d'abord un message, mais je suis un peu plus nuancé. Il ne faut pas non plus qu'on envoie un message de repli sur soi. Ne rêvons pas, on ne va pas réindustrialiser dans toutes les filières en France. Et puis, il y a quand même 20% des salariés français qui vivent de l'exportation. Donc, méfions-nous des mesures de rétorsion. Mais
c'est en étant plus fort à l'intérieur qu'on exportera.
Toujours.
Oui. Puisque de toute façon, la Chine fournit également les autres pays européens.
Sur l'objectif, le macro-objectif stratégique, on est d'accord. Mais c'est parfois un peu plus nuancé que ça. Bon. Il faut qu'il y ait un message très fort. Il faut que l'opinion publique s'approprie ce message, et je l'ai dit en préambule, enfin dans ma première intervention, c'est pas évident. Il y a un discours maintenant très sympathique, très politiquement correct et mainstream, pro-industrie. Le jour où il faut passer à l'acte, les mêmes sont beaucoup plus réticents, qu'il s'agisse d'accueillir une entreprise à proximité de chez soi ou d'envoyer ses enfants travailler dans l'industrie. Donc il y a un énorme travail de pédagogie, le MEDEF à sa place s'y emploie pour remonter le courant, je dirais, de ces 30 années de capitulation. Et puis il y a des dispositifs très objectifs qui peuvent prendre effet rapidement. J'ai évoqué la fiscalité, j'ai évoqué la réglementation, et puis il faut à un moment donné remettre le balancier à la bonne place, c'est-à-dire oui à l'environnement, mais pas tout pour l'environnement.
Merci beaucoup, Monsieur Martin. Merci d'ailleurs à tous nos invités, parce qu'on le comprend, les problèmes sont importants. Il y a des solutions et des industries, des filières qui renaissent, ça fait plaisir. Il y a des perspectives. Elle avait bien raison, Sophie de Menton, dans son livre « La France sans dessus, dessous ». Quand on vous écoute, on sent bien que c'est le monde qui est sans dessus, dessous. Mais vous avez plein d'idées de préconisation, donc ça nous permet d'avancer vers la conclusion de cette table ronde. On attend dans un instant Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, pour ce mot de conclusion. Merci, messieurs, dames, d'avoir participé à cette table ronde. Merci de nous avoir suivis.